ultimement conscience de sa folie, sa grandeur et sa finitude, toujours, seul il se retrouve, emporté dans le tourbillon des pensées infinies et torturées qui sont les siennes. Cet état fugace et pourtant si long où l'on prend enfin conscience de notre ignorance, de notre puissance et de la beauté de ce monde, alors il devient son propre Dieu. Il est 22h30, je suis Eugène Leroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce 14e épisode de votre émission « Des hommes et des dieux ». Comme chaque semaine, nous allons commencer l'émission par une citation se rapportant à notre sujet de la semaine. La suivante. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Cette citation de Confucius apparaît fort à propos. Vous comprendrez assez vite pourquoi. Ainsi, comme vous l'avez sûrement deviné, le sujet de cette émission sera le rapport de l'homme à la mort. Plus particulièrement, la manière dont l'étude de la littérature au cours des siècles peut nous permettre d'appréhender la question de la mort chez l'homme. Pour cela, je serai en compagnie de M. Kamel Habas, qui a notamment réalisé un essai philosophique sur la place de la mort dans l'étranger d'Albert Camus. Bonjour Kamel.
Bonjour Eugène. Je suis enchanté d'être ici avec vous.
Merci, moi de même. Nous serons également accompagnés de Pierre Morest, professeur de lettres à l'Académie Colbert. Ce dernier s'est spécialisé dans l'étude des écrits de Platon et sera donc ici pour nous présenter le point de vue de Socrate sur la question. Malheureusement, M. Morest est déclaré positif au Covid-19 et par conséquent ne sera présent ici qu'au travers de sa voix. Bonjour Pierre, vous m'entendez ?
Oui Eugène, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis désolé de ne pas être physiquement en parlant avec vous, mais vous savez comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Hein.
Exactement. Enfin, les présentations sont faites. Nous pouvons commencer. Je vais d'abord donner la parole à Kamel. Quelle est la place de la mort dans l'œuvre de Camus ? Quelle est la vision que Camus avait de celle-ci ? Merci Eugène. Alors, tout d'abord, il est intéressant de noter que la mort est un thème récurrent chez Camus. En effet, que ce soit dans l'étranger, la peste ou encore la chute, la mort de quelque chose ou quelqu'un représente toujours le moment dans le récit où tout bascule. Il y a toujours dans les œuvres de Camus un avant et un après. La place de la mort chez Camus est donc essentielle, elle lui permet d'exprimer clairement son style de l'absurde. En effet, qu'y a-t-il de plus absurde que la mort ? Cette dernière l'est par sa fatalité, sa brutalité et sa finalité. La mort est ainsi une question essentielle de ses récits. Concernant sa vision de la chose, il est intéressant de noter que Camus était réellement tourmenté et torturé par cette idée. Il existe ainsi de nombreuses citations de Camus au sujet de la mort, la plus connue étant peut-être « Ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi ». Il est d'ailleurs tragicomique de voir que lui qui était obsédé par cette mort finit par la trouver si tôt et si brutalement. Enfin, au-delà de ça, la principale vision qu'avait Camus de la mort était que l'étude de la mort menait au fatalisme. Un fatalisme qu'il combattait, en effet, puisque la fin est déjà définie, à quoi sert la vie ? C'est cette idée qui aura tourmenté pendant longtemps Camus. Il semble malgré tout qu'il ait trouvé un semblant de réponse qui lui convenait dans cette autre situation. On ne vit pas plus ou moins longtemps heureux, on l'est, un point, c'est tout. Et la mort n'empêche rien. C'est un accident du bonheur en ce cas. Très bien, Kamel, mais dans quelques instants, vous allez revenir plus en détail sur un extrait de L'étranger de Camus et l'analyser sous le prisme de notre sujet. Avant ça, puis-je vous demander pourquoi donc vous avez décidé en particulier de prendre cette œuvre, en particulier donc dans tout le répertoire de Camus ? Alors, c'est une question intéressante. Je dirais que c'est parce que L'étranger est le roman qui exprime le mieux l'absurdité de la mort chez Camus. Que ce soit au début avec l'enterrement de la mère de Meursault, le personnage principal, au moment où le roman bascule, c'est-à-dire sur une mort, ou sur la fin du roman qui se conclut par les derniers jours d'un condamné. La mort est ainsi omniprésente dans cette œuvre. Elle l'ouvre, la transforme et la conclut. De plus, dans ce roman, on a accès à la fin, à la représentation la plus concrète des tourments de Camus, avec le personnage de Meursault qui, aux portes de la mort, revendique pleinement son étrangeté. Sa différence qui réside justement dans le fait que considérer que la mort étant inévitable, rien ne compte. Et rien n'est donc plus absurde qu'une mise à mort pour des raisons qui sont caduques, donc, et dont les conséquences ne font qu'accélérer le destin. Meursault étant ainsi, en quelque sorte, le personnage ultime de Camus, censé répondre à la question terrifiante de la mort. Ainsi, comme pour celui de Stavrogin chez Dostoïevski, ce personnage en devient impossible et fantasque. Il me semblait donc fort à propos d'étudier la confession de Meursault pour répondre à ce sujet. Très bien. Merci pour votre réponse, Kamel. Eh bien, du coup, nous vous écoutons concernant l'étude de cet extrait de L'étranger. Alors,
Pour commencer, j'ai choisi d'étudier la fin de l'étranger, lors de la discussion finale entre l'aumônier et Meursault. Vous trouverez le lien du texte dans la description. Cet extrait commence par Meursault qui essaie désespérément de se faire comprendre par l'aumônier. Les termes « encore une dernière fois » sont le symbole de la répétition des efforts de Meursault pour s'affirmer alors même qu'il sait sa mort proche. On le voit juste après quand il dit au prêtre qu'il lui reste peu de temps. Meursault est donc lucide sur son sort. Il renchérit en faisant appel à la notion de Dieu qu'il rejette, en disant qu'il ne veut pas perdre le peu de temps qu'il reste avec lui. Par là même, Meursault rejette l'image d'un homme saint de son interlocuteur, essaie de parler à l'homme, son semblable, et non pas au prêtre. Seulement, ce dernier n'arrive pas à le comprendre, et reprend son rôle, ce qui lui attire les foudres de Meursault, qui refusera de l'appeler mon père. À l'aube de sa mort, il rejette ainsi l'absurdité de ce monde. Le terme « il était avec les autres » est très important. En effet, Camus se sert de cette distinction entre le personnage et les autres pour marquer la différence entre l'homme qui est déjà mort et en a conscience et les autres. Cela explique la hargne et la colère de Meursault devant ce prêtre qui essaie de lui faire une sorte de morale. Seulement, et c'est cela qui fera basculer le dialogue, le prêtre ne comprend pas cet état d'esprit et avec la métaphore « vous avez le cœur aveugle », il relègue les pensées de Meursault à leur degré le plus ridicule et puéril. Il y a donc une certaine ironie dans l'expression du prêtre alors que lui-même se refuse à ouvrir les yeux devant la terrible vérité que Meursault essaie d'exprimer. L'expression « quelque chose a crevé en moi » représente le moment du récit où Meursault essaye désespérément de se faire comprendre, et le terme « crever » renvoie à son futur proche, tel un corbeau menaçant qui plane au-dessus de la scène. La comparaison qui suit, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme, met l'accent sur la dichotomie que Meursault semble faire de l'existence, avec d'un côté la vie et de l'autre la mort. Ainsi, ce cheveu, représentatif de la vie, est infiniment plus important que les fausses croyances du prêtre qui ne te placent dans aucun lieu de l'existence. Croyance consistant à essayer de faire de la mort un lieu connu. L'expression « j'étais sûr de moi et de la mort qui allait y venir » renvoie à la terrible vérité que Meursault essaye d'exprimer. La seule chose vraie et indubitable en ce monde est la mort. Il en découle ainsi un certain fatalisme par rapport à son existence que l'on peut percevoir à travers cette terrible périphrase. C'est comme si l'on avait toujours attendu cette minute et cette aube où je serais justifié. Cette phrase qui renvoie à la mort proche de Meursault est douloureuse, car elle semble signifier pour lui que la fin demeurant invariablement la même, pour tout le monde, rien n'a d'importance. La vie en devient absurde, puisque quels que soient nos actes, on finit tous par mourir. Camus nous a donc fait comprendre que l'existence, n'étant que mort de son début à la fin, pouvoir vivre fait de nous des privilégiés, déjà condamnés par le temps. La condamnation à mort de Meursault en devient ridiculement absurde. La dernière phrase qu'il prononce, du fond de mon avenir, est pour moi la plus terrible et celle qui me touche le plus. Son avenir est en commun à tous les humains. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un texte cathartique où Meursault nous montre toute l'absurdité de son procès, où l'on condamne un condamné, alors même que la vie est précieuse par sa fin invariable et son absurdité, tel un court intermède de sensations. Finalement, la mort représente la non-existence, et n'est donc que la seule chose indubitable et unique en ce monde. De fait, craindre la mort en devient absurde. Alors, merci pour votre analyse très complète, Kamel. C'était très intéressant. Pierre, quant à vous, vous voulez nous présenter le rapport de Socrate à la mort à travers l'apologie de Socrate, si je me souviens bien.
Oui, Eugène, c'est exactement ça. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, l'apologie de Socrate est un dialogue qui retranscrit le procès de Socrate en moins 399 avant Jésus-Christ. Ce procès qui débouchera sur la condamnation à mort de Socrate est principalement connu sur le discours de Socrate qui répond aux trois chefs d'accusation déposés contre lui. Corruption de la jeunesse, non-reconnaissance de l'existence des dieux traditionnels athéniens et introduction de nouvelles divinités dans la cité. J'ai donc décidé de prendre ce texte qui me paraît pertinent dans la mesure où le point de vue d'un philosophe comme Socrate sur la mort, au moment même où il s'en rapproche, me semble fascinant.
Très bien. Et voyez-vous des similitudes entre cette œuvre et L'étranger que Kamel vient de nous présenter ?
Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux œuvres. Les deux personnages ont une vision unique de la mort, vision appuyée par le fait qu'ils sont confrontés. De plus, les deux sont justement des condamnés à mort qui s'expriment peut-être pour la dernière fois de leur vie. Par conséquent, leur réflexion est extrêmement intéressante. Il y a par contre une différence essentielle entre les deux œuvres. En effet, Meursault ne se défend pas, mais semble refuser son sort qu'il trouve absurde. Socrate lui va se défendre tout en acceptant sa condamnation, ce qui semble assez paradoxal. Mais j'aurai sans doute l'occasion de vous en parler plus en détail lors de mon analyse d'un extrait de l'apologie de Socrate.
Mais allez-y, je vous en prie.
Merci, Eugène. Alors, tout d'abord, ce texte commence avec une comparaison qui nous plonge directement dans la philosophie de Socrate. Ce dernier faisant le parallèle entre craindre la mort et se croire sage, alors qu'on ne l'est pas. Au-delà de la thèse de Socrate qui est exprimée clairement, on peut aussi noter le rapprochement avec l'affirmation de Socrate qui se disait sage, car contrairement aux autres, il savait qu'il n'avait aucune connaissance. Socrate continue à exposer clairement sa thèse avec la phrase suivante « Personne ne sait ce qu'est la mort ». Socrate sous-entend ainsi son manque de croyance envers les dieux grecs et son absence de crainte devant ce qu'il ne sait pas. Par l'expression « ignorance répréhensible », Socrate lance une attaque à peine dissimulée aux sophistes qui profitent de son procès pour continuer à philosopher. Or, c'est la juge que je diffère à travers cette apostrophe, au jury Socrate affirme haut et fort sa différence. Socrate continue dans cette vision du monde en affirmant que je ne crains donc pas les mots que je ne connais pas. Par là même, il sous-entend ne pas craindre la mort. Il renchérit avec panache devant les juges en proclamant son indifférence devant leur jugement. Et loin de se défendre, il tourne en ridicule la justice, la société à travers la réplique. Jamais je ne les craindrai ni les fuirai. Par la longue prolepse qui suit, Socrate annonce sa thèse finale tout en empêchant le jury de répliquer puisqu'il devance leurs propos. Socrate affirme ainsi clairement qu'il assume clairement de ne pas craindre la mort et ainsi que tant qu'il ne sera pas mort, il refusera d'arrêter de philosopher et donc pour lui de vivre. Ainsi dans ce texte, Socrate nous montre qu'il est absurde de craindre la mort que nous ne connaissons pas. Il est bien plus à craindre pour lui de gâcher sa vie dans l'espoir de le préserver le plus longtemps possible.
Merci beaucoup Pierre. Ce point de vue est également bien que différent de celui de Kamel, très intéressant. Bon, Pierre, Kamel, merci beaucoup pour votre participation. L'émission touche à sa fin. On se retrouve, chers auditeurs, samedi prochain, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.